bien sûr, mais d'abord, eh bien, c'est l'heure des sports. Et c'est avec vous, Olivier Pron, bonjour.
Oh, bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et rien que du foot au programme ce matin, avec la fin hier de la 6e journée de qualification de la Coupe du Monde 2026. 15 matchs au programme et quelques luttes finales qui se dessinent, Olivier.
Oula oui! Les 4 dernières journées à l'automne, Sébastien, l'automne prochain promettent de sacrées batailles pour les premières, voire deuxième place hein, qualificative. Mmh. On le rappelle, les 4 meilleurs deuxièmes seront concernés et auront encore une longue route, mais au moins ils auront une route à faire. Bon, le Maroc déjà n'est pas officiellement parmi les 7 qualifiés déjà dans le monde hein, pour cette Coupe du Monde. Mais c'est tout comme, victorieux 2-0 de la Tanzanie, les hôtes de la prochaine CAN comptent 9 longueurs d'avance sur le Niger dans un groupe de 4, puisque l'Érythrée ne joue pas et le Congo Brazza attend de savoir à quelle sauce le mange la FIFA. Pour le reste, sans être exhaustif, il faut parler de la lutte intense que continuent de se livrer Congolaises et Sénégalais dans le groupe B. La RDC est en tête, toujours après son succès 2-0 hier à Ouagadougou face à la Mauritanie, mais le Sénégal est tout près, à un point seulement, comme le Soudan. Les champions d'Afrique 2021 ne brillent pas, loin s'en faut, mais gagnent, comme hier, 2-0 face au Togo à Dakar, Pape Matar Sarr, puis Boma contre son camp, côté buteur, et le gardien Edouard Mendy pour l'analyse au micro de Wahani Johnson Sambo.
Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, la victoire. En première mi-temps, on était un peu en dedans. Je pense que dans les duels, on a été en deçà de ce qu'on pouvait faire. On a réglé ça en deuxième mi-temps, on a gratté des ballons plus haut, on a eu des bons temps de possession. Dans les duels, on a été beaucoup plus présents. C'est ce qu'il faut faire quand on joue à domicile et quand on est le Sénégal. Donc on va garder la deuxième mi-temps comme modèle, on va s'appuyer dessus. On sait que les prochains matchs vont être capitaux, donc à nous de bien les préparer et d'être prêts pour ces échéances.
Et voilà le gardien Edouard Mendy. Parmi les autres résultats à noter, Olivier, il y a bien sûr le succès important du Cameroun.
Nécessité absolue, Sébastien, à Yaoundé de battre la Libye hier pour rester au contact du Cap-Vert, vainqueur en Angola 2-1. Chose faite, 3-1 avec un doublé de Vincent Aboubakar qui avait appelé à l'apaisement entre fédération et ministère la veille. Les Lions indomptables sont à une longueur des Cap-Verdiens. L'Algérie 5-1 face au Mozambique, son dauphin. L'Égypte 1-0 face à la Sierra Leone ont pris elles de très sérieuses options en vue de la qualification. Les Comores 1-0 face au Tchad peuvent continuer à en rêver à 3 points des Ghanéens, au contraire de la Guinée, battue 1-0 en Ouganda, ou du Bénin, désormais à 5 longueurs de l'Afrique du Sud, qui s'est imposé hier 2-0 face au Guépard de Guernot Rohr. Mal embarqué aussi dans le même groupe, les affaires d'Eric Schell avec le Nigeria, 1-1 hier à Ouyo pour les Super Eagles face au Zimbabwe. Ils sont 4e à 6 points des Sud-Africains. On écoute le dépit du sélectionneur français Eric Schell.
Nous avons fait une excellente première mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Les 10 dernières minutes ont été plus difficiles. Les joueurs étaient un peu fatigués. Je suis très déçu pour eux et pour le pays. Je pense que nous pouvons encore viser la deuxième place. En tout cas, l'équipe a progressé dans l'impact et avec le ballon, que ce soit en attaque rapide ou dans la construction. On méritait de gagner, mais c'est le football. Nous avons vu beaucoup de matchs comme celui-ci. Encore une fois, je pense que nous méritions mieux ce soir.
Ah ben mérité n'est pas gagné. Eric Schell avec Bright Abiola à Ouyo, place à présent aux matchs amicaux de juin. Retour de cette course à la Coupe du Monde en Afrique en septembre.
Et ben c'est bien noté. Le journal des sports, Olivier Pron, on vous retrouve tout à l'heure sur RFI. 4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et tout d'abord, l'Ukraine, la Russie qui acceptent chacune de leur côté de cesser les hostilités en mer Noire, annonce des États-Unis hier à travers 2 communiqués distincts, 3 jours après le début des discussions indirectes en Arabie Saoudite. Selon la Maison-Blanche, Kiev et Moscou seraient prêts à assurer la sécurité de la navigation, à supprimer l'usage de la force et à ne pas utiliser des navires commerciaux pour des objectifs militaires. La Russie pose tout de même une condition, à savoir la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais. 7e soirée consécutive de manifestations. Hier en Turquie, des dizaines de milliers de personnes protestent toujours contre l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Une catastrophe humaine et environnementale en Corée du Sud. 18 personnes au moins sont mortes dans une série de feux de forêt dans le sud, parmi les plus meurtriers de l'histoire du pays. Des milliers de pompiers sont engagés depuis 5 jours contre ces incendies favorisés par un temps sec et venteux. Et puis les réquisitions qui continuent devant le parquet financier au procès de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français soupçonné d'avoir bénéficié de financements libyens pour sa campagne de 2007. Aux yeux des procureurs, l'ex-chef de l'État serait le véritable commanditaire d'un pacte de corruption indécent noué avec Muammar Kadhafi. Quand la science progresse à pas de géant. On referme maintenant notre série de reportages débutée lundi sur les recherches africaines en génomique humaine. Un domaine fascinant, mis en lumière avec le sommet de la Human Genome Organization qui s'est tenu pour la première fois ce mois-ci en Afrique, dans la ville sud-africaine de Durban. Et quand on parle de pas de géant, pour vous donner une idée, en 2001, pour réussir à séquencer le génome humain, c'est-à-dire pour déchiffrer les lettres qui composent l'ADN d'un individu en quelque sorte, eh bien il avait fallu 10 ans de travail et plus de 2 milliards de dollars de financement. Aujourd'hui, 24 ans plus tard, il suffit de quelques jours seulement et de moins de 1000 dollars. Or, le procédé est fondamental pour la recherche. C'est un reportage signé Claire Bargelès.
Maria Chimpolo mène des recherches en génomique dans la région de Kunene, au sud de l'Angola. Après l'accord des participants, elle collecte des échantillons de sang, les envoie ensuite dans des laboratoires pour extraire l'ADN et déchiffrer le génome de populations jusqu'à présent peu étudiées. Mais il lui est souvent difficile de trouver des fonds.
Le financement pose toujours problème. Lorsqu'on annonce que l'on souhaite étudier la diversité génétique, on n'obtient jamais de fonds nationaux. Donc il faut aller chercher de l'argent à l'extérieur.
Une initiative nommée Hérédité et santé humaine en Afrique, financée à hauteur de 176 millions de dollars par des fonds américains et britanniques, a permis de soutenir pendant 10 ans une cinquantaine de projets sur le continent. Maintenant que le programme a pris fin, des pays tentent de lancer leurs propres travaux de séquençage, comme l'Afrique du Sud, sous la houlette de la chercheuse Rizwana Mia.
On va d'abord commencer à séquencer environ 10 000 génomes d'un groupe de patients que l'on suit déjà sur le long terme en guise de phase pilote pour étudier la faisabilité. Puis nous souhaiterions séquencer les génomes de 100 000 Sud-Africains dans le cadre d'un plus grand programme. Nous vivons dans un pays très diversifié. Tout cela nous offrira donc un solide ensemble de données pour que nous puissions découvrir de nouveaux variants qui jouent un rôle significatif dans les maladies qui touchent nos populations.
Le Nigeria a des ambitions similaire et a commencé à collecter des échantillons dans l'attente de financement pour lancer les séquençages. Mais un groupe de chercheurs africains rêve d'aller encore plus loin et de créer au niveau continental un réseau de centres d'excellence en génomique. La professeure Nicola Mulder de l'Université du Cap est l'une des porteuses du projet.
Nous aimerions arriver à 10 centres principaux qui seraient entièrement capables de former du personnel en génomique, d'étudier les données de surveillance des pathogènes qui émanent des instituts nationaux de santé publique et de développer la médecine génomique pour les maladies transmissibles et non transmissibles. Nous avons quelqu'un du Africa CDC dans un de nos comités. Le but, c'est de travailler main dans la main avec eux pour faire le lien entre la recherche académique et les politiques de santé publique.
Cependant, la suppression des financements américains sous la présidence de Donald Trump rendra sans doute plus compliqué l'obtention de fonds internationaux pour de nouveaux projets scientifiques. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Le dernier volet de notre série de reportages consacrée aux recherches sur le génome humain en Afrique. Les 3 épisodes sont bien sûr à retrouver sur Internet. Je suis un civil tout comme les autres au Gabon. Les mots de notre invité ce matin sur RFI et France 24 à un peu moins de 3 semaines de l'élection présidentielle du 12 avril censée refermer la transition. On reçoit Brice Clotaire-Oligui-Nguema qui a dirigé justement cette transition et qui est également candidat pour ce scrutin. Général putschiste ayant chassé Ali Bongo du pouvoir en août 2023, aujourd'hui en retrait de l'armée. À Libreville, Brice Clotaire-Oligui-Nguema a accepté de répondre aux questions de Christophe Boisbouvier et de Marc Perelman.
Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation, lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Je suis un civil, tout comme les autres.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du bongo sans bongo ?
Je ne suis pas pédégiste. On ne peut pas me dire que dans un gouvernement de 35 ministres, il n'y a que 5 pédégistes. Et on dit que c'est les plus nombreux au gouvernement. Et je vous le dis, il faut les compter au gouvernement. Laissez les gens parler comme au Gabon le dit. C'est du Congo, ça. J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs, tout comme le président Macron l'avait fait, la République en marche. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association, parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être porté par le peuple gabonais, pas par un groupe ou un clan. Ce pays doit changer. Et il va changer.
Extrait de notre entretien avec Brice Clotaire-Oligine-Guema, invité ce matin de RFI et France 24, à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes. Et on reste au Gabon d'ici là pour notre rendez-vous avec l'économie du continent dans la capitale du manganèse à Moanda, dans l'est du pays, où l'on forme depuis la rentrée 2016 les mécaniciens et les ingénieurs du secteur minier. Et cette école des mines et de la métallurgie n'entend pas se contenter d'être un simple centre de formation pour la Comilog, la filiale du géant français Eramet qui exploite le manganèse de Moanda et qui est associée à ce projet. Non, le 3MG, comme on l'appelle, veut s'imposer comme une référence en Afrique centrale. Sur place, Afrique Echo de François Mazé.
Le campus est vaste et vert, les chambres et l'amphithéâtre quasi neuf, et c'est avec une certaine fierté que Sylvain Patrick Makoumachana mène la visite. Il est le directeur des études de l'E3MG.
Oui, il faut faire des cadres issus de nos écoles promptes à accompagner l'exploitation de nos matières premières. Moi, à l'époque, on faisait 2 ans à l'USTEM, l'Université des sciences et techniques de Mansoukou. Et donc, il fallait aller faire la licence, la maîtrise, tout le reste, notamment en France. Beaucoup sont allés aussi au Canada. On n'avait pas vraiment l'instrument pour ça.
Les cours sont assurés par 4 enseignants à temps plein et par des vacataires qui interviennent à distance. On y travaille aussi bien les langues que la métallurgie. Pour des étudiants, futurs ingénieurs et mécaniciens qualifiés, mais aussi pour des cadres déjà actifs. Passé par le secteur aurifère, Glenn s'est réorienté vers le manganèse lors de son passage à l'E3MG.
Concrètement, au niveau de la mine de métallurgie, on apprend beaucoup plus sur on va dire la minéralogie, l'étude géologique, donc avec les différents plateaux que nous avons. On a travaillé beaucoup plus le cas du manganèse et de l'or. On a parlé un peu d'autres matières. Mais moi, particulièrement, je me suis apaisanté sur la partie minéralogique, donc un peu le process. Et une partie aussi, on a fait un peu la métallurgie. Donc moi, particulièrement, moi, j'étais vice-major de la promotion. Je me retrouve ici. Avec le major de la promotion, nous avons commencé ensemble sur le même site. Et jusqu'à présent, nous sommes ici aussi ensemble.
Comme la moitié de la trentaine de diplômés annuels, Glenn a été embauché à la Comilog, le géant local et parrain de l'école, dont elle est actionnaire à 49%. Mais Sylvain Patrick Makoumachana assure que l'école des mines n'est pas seulement la pépinière de l'entreprise.
Elle est singulière, on va dire. 40-50% à Comilog. Le reste, nous avons Nouvelle Gabon Mining, nous avons la société côtière des mines. Nous avons plein de partenaires comme ça. Bientôt, on va avoir dans les sucreries, dans les brasseries, parce que à cause de nos métiers, de leur formation, nos étudiants se font accueillir partout ailleurs.
Chaque année, quelques étudiants étrangers viennent à Moanda se former. Ils travaillent au renforcement du réseau international de l'école. Des partenariats sont tissés avec des institutions en France, en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire ou encore au Niger. Le 3MG ambitionne de devenir la référence éducative en Afrique centrale. François Mazé, de retour de Moanda, RFI.
RFI, 5h55 à Paris. Avant RFI matin avec Andréane Mellard, on retrouve l'humeur de Maman qui nous parle de mégarde ce matin. Eh oui Maman, car en très très démocratique république, il arrive qu'un dirigeant égare quelques milliards par inadvertance.
Oui, il y a des choses qui n'arrivent qu'au Gondwana, des choses surprenantes il y a quelque temps, mais aujourd'hui devenues monnaie courante et sans jeu de mots. Le seul à ne pas s'être encore habitué à ça, ben c'est le Gondwana lambda qui tombe littéralement de sa chaise quand il apprend que tel ministre ou tel dirigeant d'une entreprise publique a avoué benoîtement avoir perdu la trace de quelques milliards dont il avait pourtant la charge. Le Gondwana lambda, éternel tireur du diable par la queue, ne comprend pas comment une telle chose peut arriver. Lui qui sait toujours combien d'argent il a dans sa poche au centime près. Par exemple, quand il pense avoir perdu la trace d'un petit billet ou d'une petite pièce, ben il sait exactement où chercher. Il retourne les poches de tous ses pantalons et chemises, il regarde sous le lit, sous l'oreiller, partout où la main passe et repasse. S'il ne le trouve toujours pas, ben il refait mentalement tout son trajet de la journée jusqu'à repérer l'exact moment où il est susceptible d'avoir égaré ou de s'être fait subtiliser son petit billet. Dans 100% des cas, eh ben le Gondwana lambda arrive à retrouver son dû, car son dû est tout rikiki et c'est tout ce qu'il a. C'est pour ça qu'il faut pas venir lui embrouiller la tête en lui disant que quelqu'un a perdu la trace de quelques milliards. Quand il entend du ça cas la première fois. Mais le Gondwanais lambda s'est d'abord assis au bord de la route, puis s'est demandé si un milliard, ben c'est possible que ça existe, et à quoi ça peut ressembler. Bon, 100 000 francs, d'accord, il peut visualiser ça, mais un milliard, ça le dépasse. En tout cas, le seul conseil qu'il peut donner à celui qui a perdu ces milliards-là, ben c'est de faire comme lui. D'abord, il faut qu'il se demande vraiment si ces milliards étaient bien dans sa poche. Parce que des fois, on est sûr d'avoir une grosse liasse de billets dans la poche. Puis, quand on la sort de sa poche, là, eh ben, on se rend compte qu'en fait, c'est juste 2 ou 3 billets qui étaient froissés. Mais bon, entre nous, hein, quelques milliards, même froissés, ça doit prendre beaucoup, beaucoup de place dans une poche. Hein. Ensuite, s'il est sûr qu'il avait ces milliards sur lui, ben, le ministre n'a qu'à bien repenser à ce qu'il a fait au moment où il a été obligé de sortir de la maison en courant. Parce que des fois, dans la panique, on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'il a oublié les milliards sur la table ou dans la poche de son pantalon, ou bien ils sont tombés par terre? Oui, on sait tous qu'il y a des gens, quand ils voient un gros billet par terre, ben ils ne disent rien. Ils mettent leurs pieds dessus et ni vu ni connu, quand tout le monde est parti, ils se baissent et empochent l'argent. Mais bon, entre nous, hein, pour cacher quelques milliards sous tes pieds, il faut que tu aies de très très grands pieds, hein. En tout cas, le gars là, le ministre ou le DG, il n'a qu'à bien chercher, hein. Nous, on le regarde et on attend. À demain.
On attend. À demain, Maman. Merci Laurent Hérault qui a réalisé cette session d'information. Édouard Dupénoat était à la rédaction en chef. Et merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité à la Radio du Monde. On salue d'ailleurs ce matin Jerry Clark Waneton qui nous écoute depuis Bangui en Centrafrique. Il nous a écrit à l'adresse africematin@rfi.fr. Et on reste sur RFI, bien sûr, car tout de suite, RFI Matin débute avec vous, Andréane Mélard. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin jusqu'à 9h à vos côtés pour raconter, illustrer, décrypter l'actualité mondiale avec l'ensemble de la rédaction et avec nos correspondants à travers le monde. Ce matin, on va encore beaucoup parler du Sénégal, de l'Ukraine, de la RDC, du Gabon, mais aussi de la Turquie et du sport. Plein de foot au programme, vous saurez tout à notre écoute. Dans une minute, le journal.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Togo, l'opposition maintient la pression pour dénoncer la nouvelle constitution votée il y a un an et qui permettra au président Fornia Simbé de rester à la tête de l'État. Que vous inspire cette mobilisation? Quelle est la marge de manœuvre des opposants? On en parle.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
L'exposition Paris Noir au Centre Pompidou met en lumière, enfin, 150 artistes d'Afrique, d'Amérique du Nord ou des Antilles. Des artistes de la deuxième moitié du XXe siècle qui n'avaient presque jamais été exposés. Nous en parlerons avec la commissaire de l'expo et avec l'artiste William Adjete Wilson.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.